En étrange pays, Gilles Lapouge, bonjour. Jean Dufournet, je lui sais beaucoup de reconnaissance parce que souvent il vient ici dans cette émission pour nous parler d'une période qui moi me fascine, qui est le Moyen-Âge. Mais Jean Dufournet est professeur de littérature, il a écrit beaucoup sur la littérature du Moyen-Âge, il a fait beaucoup d'éditions aussi, et généralement ce sont des émissions qui sont littéraires. Je me souviens d'une émission sur le roman de Renard qui m'avait passionné, nous avons fait Villon, enfin nous avons fait quand même un bon tour, hein, une petite anthologie comme ça. Aujourd'hui il s'agit encore bien entendu de littérature, parce que vous êtes un professeur et un chercheur en littérature, mais et souvent la chose se présente ainsi, c'est également de l'histoire, hein, puisque nous allons parler de deux livres qui sont très très importants à tout point de vue. D'abord du point de vue historique, parce que ils racontent un événement très très important du Moyen-Âge, un événement des croisades. Et puis du point de vue littéraire, c'est également très remarquable, parce que c'est sans doute la naissance peut-être de ce qu'on peut appeler les chroniques, ou plus encore de l'histoire, hein, de l'histoire en littérature. Alors, troisième intérêt de votre présence et de ce que vous allez présenter aujourd'hui, c'est que sur l'événement en question, et cet événement c'est la quatrième croisade, on va dire exactement en quoi elle se marque par rapport aux autres croisades, sur cet événement, vous publiez deux textes du Moyen-Âge, deux textes de l'époque, c'est-à-dire il y a deux personnes, il y en a sans doute d'autres, mais il y a deux personnes en tout cas qui ont raconté le même événement, et d'une façon très différente. Donc la comparaison entre les deux textes, et quand vous publiez en même temps les deux textes, cette comparaison est très possible et tout à fait intéressante. La comparaison nous permet d'avoir des conclusions littéraires, mais historiques aussi, et sociologiques aussi, parce que les deux historiens en question ne proviennent pas de la même classe, est-ce qu'on dit classe sociale à l'époque, je ne sais pas, enfin du même ordre, hein. Bien, alors j'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous de parler. Simplement, avant de nous parler de ces deux œuvres, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu un mot sur cet événement qu'est la quatrième croisade, parce que elle est très très atypique par rapport aux autres croisades.
C'est exact, elle est atypique parce que les croisés qui sont embarqués pour délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem
pour la quatrième
ont
fois.
Fini par prendre Constantinople et établir un empire latin à Constantinople. Comment en est-on arrivé là? Quand ils ont décidé de se croiser, des personnages comme Villehardouin, comme le comte de Flandre, comme le comte de Champagne, avaient en vue la conquête de Jérusalem. Mais il gardait dans l'esprit l'échec de la troisième croisade qui avait été menée par les rois de France et d'Angleterre, par l'empereur d'Allemagne, et qui avait abouti à un échec à cause des rivalités. Alors ils ont décidé de faire différemment.
Ils ont court-circuité les rois.
De court-circuiter les rois et de constituer une croisade à partir d'une prédication populaire de Fulk de Neuilly, qui était un petit curé de la banlieue parisienne, un curé de campagne, mais qui donnait l'impression aux gens que l'Esprit Saint parlait en lui et qui avait reçu mission de la part d'Innocent III, le pape, de prêcher la croisade.
Ah, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire le pape lui-même avait peut-être désigné ce petit curé, voilà, de la région parisienne.
Voilà.
Il connaissait tout, le pape, comme ça.
Oui,
il était capable
à un moment,
de...
non. Le pape a connu la prédication de Fulk de Neuilly. Donc, à ce moment-là, il lui a donné l'autorité suffisante pour parler en son nom. Ouais. Donc, Fulk de Neuilly a été dans les cours, a été dans les tournois pour recruter les croisés. Et il y a eu un grand tournoi en 198, a écrit, c'est Asfeld en Ardennes, où là, le comte de Champagne et ses vassaux ont décidé de se croiser.
Mais Jean Dufournet, il y a eu d'autres prédicateurs populaires dans d'autres croisades, non?
Oui,
c'est
il y en
pas
a
une
eu.
Nouveauté.
Mais là, c'est lui qui a joué un rôle important, qui a cristallisé. Puis ça correspondait à un courant religieux important. Il y a eu des écrivains comme Pierre de Blois, Pierre le Chantre, qui ont été excédés par l'échec de la Troisième Croisade à cause de l'ambition des grands. Alors ils ont mis l'accent sur la vertu de pauvreté et d'humilité, et ils ont dit qu'il fallait que cette croisade soit faite par le peuple, sans tenir compte ni de la richesse, ni de la tactique, ayant confiance en Dieu.
Très bien, et je vais citer alors maintenant, donner le titre de ces deux livres que vous publiez, puisque ils sont tous les deux présentés par vous, avec énormément de notes, très très complexes et très savantes, et vous l'avez traduit tous les deux, et ce sont des éditions bilingues dans les deux camps, voilà. Ce qui est très précieux. Le premier, ou le deux, enfin je ne sais pas lequel est le premier, c'est chez Champion Classique, Robert de Clary, La conquête de Constantinople. C'est donc une édition bilingue, et c'est vous qui avez tout fait, Jean Dufournet. Et le deuxième a exactement le même titre d'ailleurs, oui c'est oui. Cela, également La conquête de Constantinople, simplement c'est l'auteur, pas vous êtes le traducteur, le présentateur, mais l'auteur lui-même change, c'est Geoffroy de Villehardouin, dont le nom au moins est beaucoup plus connu que celui de Robert de Clary, mais il traite du même sujet, la conquête de Constantinople, présentation et traduction par Jean Dufournet, et bizarrement ce n'est pas le même éditeur, le premier c'était Champion, là c'est G.F. Flammarion.
Oui, je travaille pour deux éditeurs. Et j'ai...
Oui, mais vous faites, c'est un travail qui se complète quand même.
Oui, oui, exactement.
Moi franchement, je ne vais pas vous faire de reproches.
Ce sont deux éditeurs avec qui j'aime travailler,
oui,
parce qu'ils me laissent faire exactement
tous les deux,
ce que
oui.
je veux.
Mais ça aurait été formidable quand même que
de les mettre
ensemble
dans le même volume.
Il faut les lire en miroir ces deux textes.
Oui, mais je crois que c'est pas gênant d'avoir les deux volumes sur sa table.
Oui.
D'autant plus que Villehardouin représente l'aristocratie élevée, les barons, les hauts hommes, les richommes, c'est-à-dire les hommes puissants, et les champenois. Tandis que Robert de Clary est un tout petit seigneur picard. Sa terre ne dépassait pas 6,5 hectares. Vous représentez comment vivre avec 6,5 hectares. Mmh. Heureusement, il était le vassal de Pierre d'Amiens, qui était un seigneur plus important, lui-même vassal de Hugues de Saint-Paul, d'un autre comte, un des principaux chefs de la croisade.
Oui, c'est ça. Donc, ça n'était pas un roturier, mais c'était un minuscule. Minuscule.
Il partageait les valeurs de l'aristocratie, de la noblesse, mais il est loin d'en avoir les moyens, ni les responsabilités. Mmh. Alors, il est très intéressant de comparer
les
deux témoignages, parce qu'il y en a un qui est au secret, au courant de tous les secrets de la croisade, tandis que l'autre vit au jour le jour et découvre Constantinople, ses merveilles.
Ouais.
C'est-à-dire avec un regard naïf, pas tout à fait, parce que c'était pas un homme tout à fait inculte, comme on l'a dit.
Oui.
Il avait une culture médiocre, mais il avait une certaine culture qui lui permettait...
Une sensibilité très vive. Hein.
Qui lui permettait de dicter un texte. Lui, sans doute, Robert de Clary avait un frère qui était clerc, qui a participé à la croisade, qui s'appelait Alôme.
Dont il parle souvent, d'ailleurs.
Qui a accompli des exploits. Et c'était sans doute son idéal que le clerc chevalier, le clerc l'intellectuel, capable de se battre à l'épée mieux que les chevaliers, ou tout aussi bien.
Bien, Jean Dufournet, mais je reviens un petit peu en arrière, parce que vous nous avez dit, c'est une croisade un petit peu particulière,
oui.
C'est la quatrième croisade, elle veut aller à Jérusalem, elle n'y arrivera jamais,
oui.
Mais pourquoi? Et pourquoi, brusquement, ils disent, on va pas à Jérusalem, on va à Constantinople. Et avant ça, il y a quand même toutes les négociations avec les Vénitiens.
Il y a tout un enchaînement. Villehardouin, Conon de Béthune et d'autres personnages importants ont été envoyés à Venise pour trouver une république, un État, qui leur fournisse les navires, qui les transporterait. Le but primitif, c'était d'aller au Caire ou à Alexandrie et de là, attaquer Jérusalem. Et alors donc, il y a un accord qui se fait pour tant de chevaliers, tant de bateaux, tout se passe très bien, et le doge de Venise décide de se croiser en même temps que les autres.
C'est le fameux Dandolo.
Dandolo, qui était un homme de plus de 90 ans.
Ah.
Et c'était un homme assez extraordinaire, qui ressemblait un peu à Charlemagne, vous savez, dans sa vieillesse auguste. Et alors, les croisés acceptent ce plan. Ils décident d'aller à Venise. Quand ils se rendent à Venise, ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup moins nombreux que prévu. Donc, problème, financiers, parce que certains croisés ne sont pas venus. D'autres sont partis par d'autres ports. Ils étaient d'accord pour aller directement en Syrie et non pas faire ce détour par l'Égypte. Et puis d'autres se sont égarés dans la conquête de la Pouille en Italie, parce qu'il y avait un héritage. Donc, vous voyez, il y a eu une dispersion.
Il y avait un certain désordre, hein.
Oui, parce qu'il y avait des intérêts divergents. Alors, quand ils se sont trouvés là-bas, les Vénitiens ont montré les dents en disant « faut respecter votre parole ». Et puis, les croisés ont fait leur possible. Ils ont donné beaucoup d'argent de leur cagnotte personnelle, mais c'était insuffisant. Alors, à ce moment-là, le doge de Venise, qui est un fin politique, a proposé que les croisés s'emparent pour le comte de Venise de la ville de Zara, Jadre, qui s'était libérée du joug vénitien et qui était passée au roi de Hongrie.
Qui est une ville de Croatie, je crois.
Voilà, de aujourd'hui. Croatie, voilà, aujourd'hui, cette région-là. Alors, donc, les croisés, là déjà, il y a des grandes divergences. Parce que attaquer Zara, c'est attaquer une ville chrétienne. Donc, menace d'excommunication, puis certains ont refusé, comme le fameux Simon de Montfort, qui s'est opposé à ces déviations. Simon de Montfort, qui fera la
croisade. Celui qu'on retrouvera chez les Cathares.
Oui, voilà.
C'est un sale oiseau, celui-là. Hein.
Faut peut-être nuancer, mais c'est vrai. Alors, donc, le grand problème, après Zara, et puis à ce moment-là, arrive d'Allemagne un personnage qui était le fils de l'empereur Isaac, qui avait été détrôné par son frère. De l'empereur byzantin, qui était soutenu par l'empereur d'Allemagne, et qui vient là, et qui propose aux croisés, soufflés sans doute par l'empereur d'Allemagne et Boniface de Montferrat, de mettre les ressources de l'empire byzantin au service des croisés, à condition qu'il récupère son trône et qu'il chasse l'usurpateur Alexis III. Donc vous voyez, alors à ce moment-là, des gens comme Villehardouin, en toute bonne foi, se sont dit, c'est le meilleur moyen d'assurer des ressources suffisantes pour mener à bien l'expédition. Oui. Donc, ils décident d'aller à Constantinople, ils prennent la ville par deux fois. La première fois, pour rétablir le jeune fils de l'empereur Isaac, et qui deviendra Alexis IV, et une seconde fois, comme les Grecs ne tenaient pas leurs promesses, ils ont pris pour leur propre compte Constantinople.
Oui, on va revenir un petit peu plus en détail sur tout ça, parce que c'est très passionnant et c'est très très compliqué. Il y a deux petits événements, il me semble, que vous n'avez pas cités. C'est que au départ, il y avait un chef de cette croisade qui était un homme des Flandres, je crois aussi, non Thibaut.
C'était Thibaut de Champagne, qui avait été pressenti. On ne sait pas absolument s'il était vraiment... Il avait été désigné effectivement comme chef, mais il est mort avant le départ de la croisade.
Donc il a fallu entrer.
À ce moment-là, ils ont cherché du côté du duc de Bourgogne, refus. Du duc de Bar, refus. Et alors donc, Villehardouin propose un marquis italien, Boniface de Montferrat, qui avait déjà participé à une croisade, et que Villehardouin avait peut-être connu lors de la troisième croisade, parce qu'on ne sait pas si Villehardouin n'avait déjà pas participé à la troisième croisade. Donc, on décide de prendre Boniface de Montferrat comme chef de la croisade. Il va être le chef, c'est sous son...
Et il y aura des problèmes aussi quand même.
Hein. Après, oui. C'est sous son autorité que l'on prendra Constantinople.
Un deuxième détail, il me semble, que vous n'avez pas cité, c'est que il y avait, parmi ces croisés, c'était par milliers, il y avait en tout 50 000 hommes à peu près.
Oui, moi c'est ce que je dirais, vous voyez. Il y a un chiffre de Robert de Clary, dont il faut se méfier, il disait qu'on avait prévu 4000 chevaliers et 100 000 fantassins. Puis en fait, il y eut 1000 chevaliers et 50 000 ou 60 000 fantassins. Donc vous voyez, alors, autour du chevalier,
il y a quelqu'un autour de lui.
Voilà, il y avait 3-4 personnages. Donc vous voyez, je dirais 60 000, 70 000 combattants.
C'est ça. Mais au départ, parmi ces combattants, il y en avait, il me semble, un très gros contingent qui devait venir d'Allemagne.
Non, un contingent important, mais
pas le plus gros
de loin, non.
Bon, et puis, je décourage cela.
Certains. Il y en a d'autres qui font la croisade jusqu'au bout. Les défections étaient diverses à différents moments de la croisade, là.
Bien. Alors, nous allons un petit peu revenir là-dessus après un moment de musique. Dufournet nous parle de la quatrième croisade, la fameuse croisade qui a vu les croisés prendre et piller Constantinople, grâce à deux livres que Jean Dufournet publie en ce moment. L'un est chez Champion, l'autre est chez Garnier Flammarion. Celui qui est publié chez Champion, c'est La conquête de Constantinople. De toute façon, le titre dans les deux volumes est le même. La conquête de Constantinople, de Robert de Clary, qui est un petit seigneur, un petit chevalier plutôt, qui a participé à cette croisade de Constantinople, et l'autre, Geoffroy de Villehardouin, alors lui qui est un grand personnage, qui est très connu en littérature et dans l'histoire aussi, Geoffroy de Villehardouin, encore une fois, La conquête de Constantinople, présentation et traduction par Jean Dufournet, le deuxième est G.F. Flammarion. Dans les deux cas, il s'agit de textes bilingues qui sont... Enfin, moi, je me suis amusé un petit peu. Je comprends pas tout, quand même. Hein, c'est quand même très loin de nous. Hein.
Oui.
C'est une vraie traduction.
Oui, enfin... je fais des traductions. C'est à la demande des historiens, en particulier de mon ami Jacques Le Goff, qui m'avait dit, oui, traduisez le plus possible de textes, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens pour comprendre exactement l'ancien français. Donc, je fais des traductions très fidèles, très proches du texte, mais qui soient lisibles en elles-mêmes.
Mais un grand professeur du Moyen-Âge comme Jacques Le Goff, il comprend tout de suite.
Oui, Le Goff, c'est un cas exceptionnel.
Un cas exceptionnel, mais... oui.
Et puis, il comprend aussi le latin, parce que le problème, c'est qu'il faut... pour faire du Moyen-Âge, comprendre, lire et traduire le latin.
Vous comprenez le latin et le Moyen-Âge.
Voilà, j'essaie.
Il faut dire les Moyen-Âges, non?
Oui, les Moyen-Âges, parce que le Moyen-Âge, c'est quand même au moins cinq siècles très différents.
La langue bouge beaucoup.
Oui, puisqu'on passe de l'ancien français qui est représenté par ces deux textes.
Ça, c'est l'ancien français.
L'ancien français, mais il y en a un qui est écrit en dialecte moyen francien, celui de Villehardouin, et l'autre en dialecte picard.
C'est ça.
Donc c'est deux langues différentes. Okay. Et puis ensuite, il y aura le moyen français qui sera illustré par Froissart et par Comines, autres historiens.
Oui. Donc vous donnez ces deux éditions qui sont bilingues, et il y a un appareil de notes qu'on utilise ou pas, mais de notes linguistiques, syntaxiques, historiques, tout
au
long.
Oui, j'ai voulu, alors c'est ce qui a donné un très très gros travail, parce que il fallait éclairer tous les faits historiques, et c'est ce qui est ennuyeux quand on pratique la littérature historique.
Oui, bien sûr, et d'ailleurs je voulais bien le préciser, cette émission peut donner l'impression que nous accordons beaucoup d'importance à l'histoire, mais en réalité c'est une émission sur la littérature,
oui,
sur la littérature du Moyen-Âge, puisque vous êtes, vous, un spécialiste littéraire, mais dans un cas comme ça, il est évident qu'on ne peut pas tomber directement dans le texte si on n'éclaire pas un petit peu les événements qui se sont passés.
Une de mes spécialités, ça a été la littérature historique du Moyen-Âge, à partir d'auteurs comme celui-ci, comme Comines, comme Froissart, mais en dehors de ça, je me suis intéressé au théâtre du Moyen-Âge,
oui,
au Fabliau, à beaucoup d'autres genres.
Oui,
je suis un spécialiste de littérature.
Oui, c'est ça. Oui. Moi, je voudrais me dire si je me trompe, mais ce qui me paraît le plus intéressant, enfin, pas le plus intéressant, une des choses intéressantes, dans le cas de ces deux personnages qui sont tellement dissemblables et en même temps quand même embarqués dans la même, pas galère, mais enfin dans la même aventure, c'est que on a le sentiment, surtout chez le moins évolué, encore une fois, je crois ça, mais peut-être je me trompe, surtout chez le moins raffiné des deux, c'est-à-dire chez le petit seigneur Robert de Clary, le petit chevalier Robert de Clary, on a l'impression qu'il y a un monde entre la France profonde, comme on dit aujourd'hui, et ce qu'ils voient là. Déjà à Venise, alors ils sont soufflés,
ces
gens.
Ça a été un choc extraordinaire. Découvrir Venise, qui était déjà une ville moderne, très puissante, avec une flotte extraordinaire, le départ de la flotte, ça a été merveilleux. Penser que c'était des chevaliers terriens, des terriens, qui ont entrepris, justement, une navigation pour aller jusqu'à Constantinople. Et puis, en même temps, Constantinople était une ville luxueuse, c'était la plus luxueuse des villes de l'Europe médiévale, et il y avait toutes les richesses, à la fois architecturales, il y avait toutes sortes de merveilles qui fascinaient l'Occident, plus les reliques. Il y avait énormément de reliques à Constantinople, c'est une sorte de réservoir des reliques.
Ah, mais vous les citez, ces reliques, c'est invraisemblable. Moi, je crois qu'ils en ont inventé, non?
Ah non, oui, c'est ça, comme toutes
c'est
les reliques.
C'est
non, ils en ont, oui. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pourquoi il y a une telle appétence pour les reliques, c'est que au moment où la croisade se dessine, se développe en Occident le culte de la Passion du Christ. Donc, qui devient un modèle dans la souffrance et dans l'humilité. Donc, il y a toute une christologie qui se crée. Donc, on a accordé une place particulière à toutes les reliques de la Passion. Les
clous, c'était moins net.
C'était surtout à ce moment-là que ça éclate et que ça se développe. Ça se développera de plus en plus. Alors, c'est peut-être une des raisons pour laquelle des gens du Moyen-Âge se sont dit « les Grecs sont indignes de garder les reliques, il faut les attribuer à l'Occident qui, lui, pratique le véritable christianisme ».
Oui, et ces reliques joueront un rôle plus tard, au moment de la Réforme ?
Ah, oui, elles ont joué un rôle. On a eu tendance
à cause du commerce.
Oui, on a eu tendance à les rejeter après. Mais là, il y a eu tout un trafic de reliques. Il y a eu des vols de reliques, etc. Parce que la plupart des croisés sont revenus avec des reliques. Et Robert de Claré en a déposé dans la cathédrale d'Amiens.
Donc on les connaît, ces reliques.
Oui, oui. Elles ont disparu entre-temps.
Elles ont disparu.
Oui, oui.
Non,
mais on les connaît. Par exemple, il y avait la table sur laquelle on avait étendu le corps du Christ.
Elle était en marbre.
Elle était en marbre. Et il y avait les larmes de la Vierge qui étaient gravées dans le marbre.
Oui, bien sûr. Oui,
et puis il y avait le linceul dans lequel on l'avait enseveli. Et ce linceul se dressait tout droit tous les vendredis.
Souvenir
de la Passion, a disparu au moment. On ne sait pas ce qu'il est devenu.
Ça, c'est Robert de Claré qui avait trouvé ça.
Oui, c'est Robert de Claré qui l'annonce.
Oui, ah oui, c'est ça. Les interventions de l'ange aussi.
Ah oui.
Celui qui coupa la corde de l'arc dont Andronique voulait frapper Isaac. Ça, sont les débats entre les empereurs byzantins, parce qu'ils passaient leur temps à s'aveugler, à se tuer, on dira tout à l'heure.
C'était un sentiment de répulsion par les atrocités qu'ils ont commises les uns contre les autres.
Alors, qui joue sur les reliques, mais je crois que ce n'est pas exactement des reliques, il y a un certain nombre d'objets à Constantinople qui sont réputés disposer d'une puissance presque magique.
Pour une vertu médicinale. Par exemple, à la grande porte de l'église de Sainte-Sophie, il y avait un petit tuyau qu'on appelait un buotio. Et si on le mettait dans la bouche, si vous étiez malade, vous aviez une enflure, on le mettait dans la bouche, il restait fixé dans la bouche jusqu'au moment où l'enflure était expulsée. Tant que l'enflure n'était pas expulsée, vous ne pouvez pas retirer le buotio. Alors c'était assez extraordinaire. Puis il y avait des colonnes contre lesquelles on se frottait pour guérir telle ou telle maladie.
Voilà, et là, c'est ça. Alors vous dites aussi, ce buotio, fixé à la porte de l'église, il aspirait le venin, hein ?
Oui, il aspirait le poison, toutes sortes de poisons.
Oui, et vous citez Albert Pofilet qui, à son pot, dit « Tout ça, c'est très impur et fort éloigné de toute exactitude historique.
»
Mais il y a aussi le fait quand même que Byzance, donc, c'était... je ne retrouve pas la page, je la cherchais, mais je ne la retrouve pas. Il y avait un nombre de monuments, d'églises...
Extraordinaire. C'était une richesse extraordinaire.
Mais comment était-ce si riche ? Parce que ça pompait toute la richesse...
Oui, parce que c'était le centre du commerce de la Méditerranée. L'Empire byzantin était très étendu, les gens payaient des tributs importants, c'était vraiment un pays qui suscitait la convoitise. Et alors Byzance, par ses monuments, par ses jeux, il y avait un hippodrome extraordinaire, il y avait toutes sortes de statues qui étaient faites, dit-on, à la manière où on trouvait une ressemblance extraordinaire avec l'homme. Et puis il y avait des statues sur lesquelles étaient inscrits les événements à venir, mais qu'on ne pouvait déchiffrer que lorsqu'ils s'étaient produits. Même l'arrivée des croisés. Voilà. Et alors après, les gens se sont dit, tout était indiqué sur cette statue.
Est-ce que je me trompe si j'ai le souvenir que Byzance, ils avaient une spécialité, c'était les mouvements mécaniques,
les automates. Alors ça frappait les gens du Moyen-Âge. Ouais. Parce que c'était quelque chose qui était à la limite du magique. C'était du merveilleux scientifique et technique. Parce que les gens du Moyen-Âge ont été attirés par le merveilleux pur, le surnaturel chrétien. Puis il y avait tout ce merveilleux technique où il y a toutes sortes d'automates.
Oui, et qui, il paraît que c'était très évolué.
Ah oui,
très
c'était
évolué,
très sophistiqué. Ah oui, c'était une civilisation très sophistiquée, mais qui s'est un peu alanguie. Et c'est ce qui explique que les croisés ont pu conquérir Byzance, puis ensuite les Turcs plus tard.
Bien, mais alors Jean Dufournet, je vous ai expliqué au départ... Une croisade, la quatrième croisade, la précédente ayant été complètement
loupée, ratée. Des rivalités entre rivalités. Les croix.
Bon, une deuxième qu'on va essayer de faire un peu populaire et de faire appel plus davantage à des barons, à des chevaliers qu'aux monarques. Hein. Bon, l'histoire des bateaux de Venise, on a la négociation, entre autres, Villehardouin avec les Vénitiens, ce doge d'Andolo. Ouais. Très bien. Là-bas, il y a déjà des problèmes. Et ensuite, ils vont à Constantinople.
Voilà.
Alors là, c'est vraiment, ça dure très longtemps, ça.
C'est assez...
C'est 2 ans, quand même.
Oui, 2 ans. Ouais. C'est pas très long. Pour prendre une telle ville et un tel empire qui était très peuplé. Donc, ce qui montre la force des armées croisées qui ont été capables d'affronter des multitudes. Et alors, le drame, c'est qu'une fois qu'ils ont été à Constantinople, ils ont dû finir par élire un empereur latin. Qui a été Baudouin de Flandre, qui était le premier empereur de Constantinople. Mais à ce moment-là, on s'est heurté d'année en année aux Grecs qui se révoltaient, et puis au peuple voisin, les Valaques, les Coumans, les Bulgares, qui agressaient constamment l'Empire. Alors là encore, c'était une faute des chefs croisés, nous dit Clary.
Mais les Bougres aussi, non ?
Les Bulgares, c'était les Bougres. Oui. Alors, vous voyez, un bon bougre, ça vient de là. Alors, les Bulgares, c'était...
Ça voulait dire aussi homosexuel, je crois.
Voilà, c'est ça. Oui. Les Bulgares, c'était des Turcs qui s'étaient convertis. Les Courmans, c'était des païens purement et simplement. Puis les Valaques, c'était des chrétiens descendants des colons romains qui s'étaient établis en Dacie, en Valachie.
Oui, et tout ça, ça faisait beaucoup de monde quand même.
Ah, ça faisait beaucoup de monde qui attaquait constamment Constantinople. Et alors, les croisés, au lieu de continuer leur route vers Jérusalem, ont été obligés de se défendre. La croisade s'est enlisée dans l'empire de Constantinople.
Et ils gardaient toujours l'espérance de dépasser Constantinople
Parce que des gens comme Villehardouin gardaient cette espérance. Mais à la fin... Ils ont été désespérés parce que tous les grands chefs de la croisade, Boniface de Flandre a été capturé à la bataille d'Andrinople, Louis de Blois a été tué, Boniface de Montferrat a été tué sous Messinople. Donc il termine son livre par la mort de ce chef parce que tous les grands chefs sont morts et donc ils sont réduits à Constantinople et à quelques villes.
Bon, mais alors, après, à la fin de la croisade, il y a ce Baudouin et puis les successeurs de Baudouin, parce qu'il va y avoir une petite dynastie.
Oui, après son frère.
Son frère, son beau-frère, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est toujours la famille. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ils sont empereurs, mais ils sont coincés dans Constantinople.
Non, alors, ils essayent de conquérir l'Empire. Alors, on distribue des fiefs, des royaumes à chacun des grands barons. Et il y en a un qui est très important, c'est Pierre de Bracheux, qui était une sorte de surhomme gigantesque, et qui, lui, a choisi une principauté, celle d'Iconium de Cognet, en Asie mineure, qui était encore sous domination turque. Et il a été conquérir comme un héros épique son royaume là-bas. Mais après...
Il l'a conquis,
mais il n'a pas pu le garder parce qu'il a fallu qu'il vienne au secours des autres croisés qui étaient en butte à de grandes difficultés.
Donc finalement, ça ne réussit pas très bien.
Non, ça n'a pas réussi très bien et ça durera un certain temps, mais toujours à lutter et puis à espérer des secours de l'Occident.
Bien, nous allons écouter encore une musique. Thank you. Dufournet qui nous présente deux livres qu'il vient de publier. Tous les deux ont le même titre et le même sujet, évidemment, La conquête de Constantinople. Le premier de ces deux livres, enfin un de ces deux livres plutôt, est de Geoffroy de Villehardouin. Il est donc publié par Jean Dufournet chez Garnier Flammarion. L'autre, également La conquête de Constantinople, édition bilingue aussi, et chez Champion Classique. Et l'auteur du Moyen-Âge qui a écrit ce texte, c'est Robert de Clary. Bien, alors revenons un petit peu à Byzance. Bon, c'est très très impressionnant. Aujourd'hui encore, ça impressionne Byzance. Donc, vous expliquez qu'eux-mêmes devaient être extrêmement fascinés, en admiration, mais en haine. Mais alors, ce qui m'épate le plus, c'est que c'est à l'époque, on a l'impression, quand on lit l'histoire de France un peu rapidement, que les croisades sont dirigées contre les musulmans.
Ah oui.
Hein, complètement.
Voilà.
Les Grecs de Constantinople, ce sont des chrétiens.
Des chrétiens.
Alors, le détournement est incompréhensible.
Qui s'étaient séparés de Rome, c'est
oui,
une des raisons.
C'est quand même des chrétiens, malgré tout.
Des chrétiens, alors ce qui explique les divisions de la croisade. Parce que certains croisés ne voulaient pas
attaquer
des chrétiens. Simon de Montfort et quelques autres ont quitté la croisade pour ne pas attaquer les Grecs.
Ah, Simon de Montfort.
Oui, Simon de Montfort. Ouais. C'est pour ça que quand on parle de ces personnages, ils sont nuancés.
Oui.
Il faut nuancer, éviter les jugements sommaires. Et puis d'autres ont vu que les Grecs étaient des dépositaires illégitimes de la richesse occidentale, des reliques, etc. Les évêques ont prêché qu'ils n'étaient pas c'était pas un péché d'attaquer les Grecs. C'était au contraire faire une bonne action, une action charitable.
Mais lorsqu'on lit vos deux textes, surtout, il me semble, celui du plus populaire des deux, Robert de Clary. Robert, il s'appelle, hein?
Oui, Robert
de Clary. On a l'impression que, au-delà ou en deçà, plutôt des raisons politiques, de haute politique, il y avait une espèce de, pas de racisme à l'époque, ça voulait rien dire, mais de xénophobie contre les Grecs. Ils n'aimaient pas les Grecs, comme on,
il y avait une
comme on pourrait dire aujourd'hui. Ils n'aiment pas,
contre les Sarrasins, contre les Juifs et contre les Grecs.
Ah ouais.
Alors les Grecs, il y avait des différents commerciaux entre Venise et Byzance. On avait à un moment massacré des Vénitiens à Byzance. À un autre moment, on avait chassé les commerçants de Venise, pris leurs biens à Byzance. Mais en même temps, ils représentaient, selon les Occidentaux, une forme abattardée de la civilisation, trop affêtée, lâche.
C'était un peu de la jalousie,
hypocrite,
non?
Oui. Et puis, en même temps, on ne comprenait pas les pratiques politiques des Grecs, ni leur cérémonial. Les deux griefs les plus importants, c'était la pratique, c'est une politique très machiavélique avant la lettre qui se déroulait, fondée souvent sur des meurtres, des assassinats. Et puis, un cérémonial qui choquait l'Occident par son déploiement de faste.
Et néanmoins, on peut parler de quelque chose qui préfigurait le racisme, mais on ne peut pas parler d'une guerre de religion.
Non, c'était pas une guerre de religion, mais on pensait qu'on ramènerait ainsi dans le giron de Rome les Grecs qui s'en étaient séparés à la fin du 9e siècle.
C'est ça. Et puis ça devait un petit peu les énerver, tout le cérémonial, c'est-à-dire qu'il y avait en particulier les titres qui sont invraisemblables, on n'y comprend rien à leurs titres.
Et puis les Grecs.
L'étiquette.
Oui. Puis les Grecs, d'un autre côté, très, très critiques, très méprisants à l'égard de l'Occident. Donc, vous voyez, il y a eu un affrontement de deux
les
types
Grecs, de... Oui. Et les Grecs se tenaient pour beaucoup plus raffinés, non?
Ah oui, et puis ils l'étaient, effectivement.
Et c'est eux, par exemple, qui inventeront la fourchette, bientôt.
Oui,
hein.
et puis dans tous les domaines, ils avaient justement un raffinement extraordinaire. Donc, pour eux, les Occidentaux étaient des barbares. Et il y a un témoignage un historien grec de l'époque que j'ai lu qui s'appelle Nicétas Koniates, où on voit tout l'opposition des Grecs contre les Occidentaux. C'est pour ça qu'il est bon de lire les témoignages contradictoires.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez fait allusion quand même à ces familles ou ces dynasties d'empereurs qui sont très agitées, très corrompues. Il y a du poison, il y a des dagues. Enfin, il est vrai que dans beaucoup de dynasties de tout pays à l'époque, ils sont assez violents les uns avec les autres. Mais eux, quand même, moi, je trouve qu'ils vont très loin. Je vais donner quelques détails, là, en les tirant de votre livre, sans vous demander d'expliquer, parce qu'on n'en sentirait pas. Mais je vois, pour une période qui n'est pas grande, quand même, 1180, 1204, donc ça fait quoi? Ça fait 25 ans. Ouais. Alors, il y a d'abord un nommé Andronic Ier, qui devient empereur par usurpation. Ça, c'était la spécialité.
Oui, c'était usurpation. La spécialité.
Par usurpation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait étrangler Alexis II. Et il épouse la fiancée, il en profite pour épouser la fiancée d'Alexis II,
le pauvre.
Et en plus, c'était une dame de France, la nièce de France. Bon, celui-là, déjà, il est quand même pas mal, hein. Le suivant, c'est Isaac II, devenu empereur par usurpation, lui aussi. Andronique, donc celui dont nous avons parlé, est mis en pièces par la foule.
Oui, voilà, aussi, c'était le châtiment populaire, mais il faut dire qu'il avait commis tellement d'excès.
Bon. Alors, Alexis III, il devient empereur par usurpation, après avoir détrôné, aveuglé et emprisonné son frère Isaac. Alors là, c'est le comble de l'abomination.
Alors que Isaac l'avait racheté d'une prison sarrasine.
C'est affreux. Donc même votre Simon de Montfort, c'était un
ignoble
par rapport à ça. Un nommé Isaac. Alors ensuite, il y a Isaac II, donc, qui vient... il était aveugle? Non, c'est pas le même.
C'était lui qui était aveugle, qui avait été restauré pour un an ou deux.
Il est empereur et il est aveugle.
Voilà. Ah bon, mais c'était son fils qui avait le pouvoir.
Ah oui, Alexis IV.
Qui ressemblait au pouvoir.
Rétabli par les croisés, Isaac II règne avec son fils Alexis le Jeune. Et puis en voilà encore un qui n'est pas mal. Alexis V Murzufle, c'est aussi un usurpateur, je crois.
Oui.
Devenu empereur, par usurpation. Après avoir assassiné Alexis. Écoutez, ça me fait rire, mais c'est pas rigolo du
tout. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Et puis Robert de Clary insiste, parce que Alexis IV avait sorti de prison Murzuf, il lui avait donné un pouvoir exorbitant, et l'autre s'en était enorgueilli, et il a profité de son pouvoir pour tuer son bienfaiteur. Alors c'est ce qui explique que les croisés étaient horrifiés par ces comportements, parce qu'en Occident il y avait des atrocités,
aussi, oui.
Mais peut-être pas aussi monstrueuses.
Oui. Et ça c'était un petit peu une tradition.
C'était une tradition où on se débarrassait d'un adversaire, d'un prétendant, soit en le mettant en prison, soit en lui arrachant les yeux, soit en le tuant.
Vous êtes calme quand vous expliquez tout ça.
Ah ben, il faut bien.
Bien. Alors, il y a une autre question que je voudrais vous poser. Moi, je suis un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire je connaissais pas grand-chose à cette terrible affaire, grandiose affaire aussi d'ailleurs, mais ce que j'en savais surtout, et que je n'ai pas retrouvé dans les deux textes dont vous nous parlez, c'est que les croisés, donc les croisés de Rome, les chrétiens, s'étaient livrés dans cette ville également chrétienne, mais chrétienne orthodoxe, enfin chrétienne grecque, à des pillages et à des massacres innommables.
Oui.
J'avais même lu, je ne sais pas dans quel texte, un texte de l'époque, où le type racontait des exploits à vomir.
C'est exact, mais ça s'est produit à Constantinople, à peu près ce qui s'est passé à Berlin quand les Russes ont pris Berlin. À la fin de la dernière guerre,
c'est mais ne disons pas que c'est bien, nous.
Hein? Non, personne ne dit que c'est bien.
Bon. Non, mais
eux,
ils n'en parlent pas
parce que c'était, au fond, une attitude normale en temps de guerre. C'est-à-dire, on pillait, on tuait, on violait. Et pour eux, ça n'a pas eu un caractère choquant. Ce caractère choquant s'est développé au 19e, au 20e, quand on a remis en question les croisades. Avant, les croisades étaient des hauts faits de civilisation. Maintenant, on y voit des entreprises précoloniales et qu'on désavoue.
Vous les défendez vaguement, là, pas énergiquement, mais vaguement, mais votre ami Le Goff, dont vous dites « Monts et Merveilles », le mot « Merveille » va très bien pour ces deux livres, d'ailleurs, mais dans son Histoire du Moyen-Âge, il n'a pas l'air de dire que c'était formidable, puisqu'il a cette formule qui est plutôt une facétie, au fond, l'Occident a gagné l'abricot, qui a été ramené des croisades.
Il y a eu d'autres choses. Les croisades ont apporté une autre manière de vivre. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait au Moyen-Orient, ce qui se passait à Constantinople. Et puis, je crois que ça a été une réaction de défense. Mmh. Et puis, il y a une raison historique. Il y avait un trop-plein d'hommes en Occident qui se livraient à des guerres intestines. Les papes l'Église les ont détournés vers l'ennemi extérieur.
Oui, mais ils ont détourné ça aussi, ça n'a pas été formidable, puisque, vous nous l'expliquez, et eux nous l'expliquent sans arrêt, ils se disputent comme des chiffonniers.
Ah, bah oui, parce qu'il y avait...
Chacun veut prendre le
morceau
de l'autre.
Il y avait des ambitions personnelles, il n'y avait pas de chef assez fort pour empêcher ces ambitions personnelles de se déchaîner. Oui, ça, justement, je crois qu'il faut apporter tous ces éléments pour comprendre ce qu'est cette croisade. Puis celle-là était particulièrement choquante, parce qu'elle était dirigée contre des chrétiens.
Oui. Et est-ce qu'on sait ce qui se passait pendant ce temps, justement, dans les pays du Jérusalem, dans la Syrie, etc., dans le pays où, normalement, allaient les croisades? Ils devaient être ravis de voir ce qui se passait, s'ils le savaient.
Oui, ils le savaient certainement. Et puis là, il y avait une tendance dans ces pays, avec un empereur comme Saladin, et à la tolérance. Oui. C'est-à-dire, on admettait des cultes différents. Là encore, c'était très composite. Il y avait des endroits où on tolérait différentes manifestations religieuses, on amenait des débats sur les problèmes religieux, et puis d'autre part, il y avait des sectes très très dangereuses, comme les assassins,
oui,
qui était une secte qui organisait, oui, des assassinats.
C'était déjà un peu avant, hein, 11e, 12e.
Oui, mais... Justement, un des frères de Boniface de Montferrat, Conrad, qui était devenu roi de Jérusalem, à Tyr, a été assassiné, dit-on, par les assassins.
Les assassins qui semble-t-il, étaient les premiers kamikazes de toute l'histoire.
C'était des sortes de terroristes qui étaient formés, façonnés dans la montagne. Oui, là, il y avait une sorte de paradis.
À la Moute, je crois que,
oui,
ça s'appelait.
Hein, voilà. Et donc, ils formaient des jeunes. Il les prenait en main, il les formait, puis il les envoyait après exécuter tel ou tel personnage.
Et c'était extraordinaire, parce que il paraît, enfin moi j'ai lu des témoignages à cette époque-là, donc c'était des kamikazes,
ouais,
par conviction religieuse, bien catéchisés, etc. Alors on leur disait, tu descends là dans la plaine, et au moment du prêche de l'imam, tu le tues,
puis après...
Et ils attendaient... Ils attendaient d'être lapidés à ce moment-là.
Oui.
Ils ne bougeaient pas.
Oui, puis après, on leur disait, vous allez au paradis,
vous aurez des femmes
à discrétion.
Oui. Mais il paraît qu'ils tuaient, et puis ils ne cherchaient absolument pas à partir.
C'est
on
à peu
les
près
tuait
le même
comme
comportement
ça
que les kamikazes actuels.
C'est absolument extraordinaire. Bien. Un peu de musique quand même, parce qu'il faut se remettre de toutes ces atrocités. Je rappelle encore une fois les titres. Hein. Les titres, c'est le même. La conquête de Constantinople, l'un est publié chez Champion. C'est le texte de Robert de Clary. Et l'autre est publié chez Garnier Flammarion. C'est le texte de Vulle-Hardouin. L'un et l'autre sur la même croisade, mais avec des lunettes absolument contrastées, absolument différentes. Alors, nous avons fait beaucoup d'histoire. Nous avons parlé un petit peu de littérature. Et maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent, on pourrait parler seulement de littérature. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire que les deux, je les trouve absolument très très passionnants. Je préfère Robert de Clary, qui est plus gai, plus rigolo, plus émerveillé, mais il est vrai que Vulle-Hardouin est assez impressionnant, même littérairement. Vous en parlez d'ailleurs avec admiration, cette sobre grandeur. Vous parlez donc du texte de Vulle-Hardouin. Cette sobre grandeur, cette absence de complaisance en faire soi-même, ce refus de s'exhiber, cette discrétion force l'estime et l'admiration, même s'il arrive que le récit soit tendancieux. Voilà. Et il y a une citation de Sainte-Beuve, et puis vous dites, Ville-Ardouin a inauguré une illustre tradition qui compte parmi les plus grands Vauban et le général de Gaulle. Et par contre, Robert de Clary, je ne sais pas exactement ce que vous en dites, mais il a un petit peu, peut-être pas inventé cette forme et cette tradition, mais il a un côté très journaliste, lui.
Voilà, hein. Vous avez tout à fait raison. Ils ont inventé tous les deux le genre historique en français. Ce sont les premiers pratiquement qui ont écrit l'histoire en français en prose, car la prose était le langage de la vérité. La poésie, avec ses fioritures, était le langage de la fiction. Alors, tous les deux représentent un genre différent. C'est ça qui est extraordinaire dans la littérature médiévale. Quand un genre crée, aussitôt, il se crée sous diverses formes. Ville-Ardouin, c'est une chronique historique très stricte, sans excroissance, sans digression, où il va droit au but et qui vise à démontrer le bien fondé des choix des chefs croisés. C'est à la fois un récit d'histoire et un plaidoyer en faveur des chefs. Tandis que Robert de Clary, lui, il a écrit pour ses amis de l'Amiénois un reportage sur son expérience. Alors, il a fait une chronique, mais sur cette chronique se sont greffées des histoires merveilleuses et des aventures extraordinaires, en sorte qu'il a créé un nouveau genre, la chronique, qui s'accompagne de ce qu'on pourrait appeler des merveilles et des mémorables, des choses dont il convient de se souvenir. Et c'est ce qui est intéressant, nous avons donc deux genres tout à fait différents, l'un très strict, sans écart, et l'autre plein de digressions, avec ce goût de la vie, et puis le mélange du noble et du familier. Par exemple, quand le doge de Venise réprimande le jeune empereur, il lui dit « De la merde nous t'avons tiré, et nous, dans la merde nous te remettrons
».
Oui, et puis Clary raconte que les gens de Constantinople, pour se moquer des croisés qui avaient échoué dans un premier assaut, baissaient leurs culottes et leur montraient leur cul, dit-il. Tandis que Ville-Ardouin dit, les Grecs étaient esbaudis.
Oui,
vous voyez, donc, vous voyez un langage abstrait d'un côté, puis de l'autre, un langage très concret où la familiarité se mêle à la grandeur. Parce que tous les deux ont eu l'impression de vivre un moment extraordinaire.
Ça, même Clary l'a très bien compris.
Oui, une sorte d'épopée de grandeur, et tous les deux pensent au bien fondé de cette conquête de Constantinople.
Et de Clary, c'est au fond, c'est un conteur, c'est un type qui a vu des choses extraordinaires et qui le met par écrit, mais il aurait pu, à la fontaine du village, raconter,
Et ben c'est ce qu'il a sans doute fait
ce jour-là.
Il a dû le dicter à des scribes de son époque, il a raconté sa croisade, ce qu'il avait vu, parce que les 115 premiers chapitres sont développés contre, jusqu'au moment où il est parti, puis à la fin, ça va très vite. Alors, dans ces 115 premiers chapitres, il raconte toutes ces anecdotes, puis toutes les histoires extraordinaires, les monstruosités, les atrocités, les ingratitudes notoires. Alors, c'est ce côté-là qui fait le charme de Robert de Clary.
Mais, Jean Duvernay, mis à part le côté merveilleux, qui lui plaît bien, et qui est dans l'esprit du Moyen-Âge, bien entendu, pour le reste, pour les grands événements, il comprend très bien ce qui se passe, non?
Il le comprend moins bien.
Il le sait, en tout cas.
Voilà, il le sait, et puis il en tient compte. C'est ça, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne l'esprit d'un petit chevalier de l'époque. Quelles sont ses valeurs? Alors, valeurs générales, par exemple, on ne doit pas admettre les crimes monstrueux des empereurs byzantins. Valeurs...
Alors, là, vous êtes d'accord, vous?
Oui,
moi aussi.
Moi aussi, là. Et puis, valeurs de l'Occident médiéval,
oui,
dont la haine contre les Grecs.
Oui.
Valeurs de la chevalerie courtoise, la loyauté, la beauté, etc.
Oui, mais moi j'ai l'impression que parfois, ce Robert de Clary, il avait un côté un peu socialement subversif, parce qu'il n'aime pas beaucoup les grands barons.
Ah ben oui,
c'est rarement les grands barons qui sont les plus héroïques.
Il n'est pas le seul.
Ah, il n'est pas le seul.
Voilà, là, il y a une sorte de lutte entre les grands barons qui déterminent tôt, qui s'approprient les biens de... Et puis les petits chevaliers, la piétaille, qui a fourni tous les efforts et qui s'estimait frustré. C'est pour ça qu'il a écrit aussi sa chronique.
Pour dire quand même,
pour
nous étions là.
Des gens comme son frère qui ont été héroïques. Ouais. Et puis il y a une scène extraordinaire. À un moment, on partage. Alors on donnait tant aux chevaliers, tant aux clercs, etc. Et à l'aume de Clary, le frère a demandé que lui et ses camarades touchent autant que les chevaliers, parce qu'ils avaient fait autant. Et lui, le conduc de Saint-Paul lui donne raison. Donc, vous voyez, il y a des revendications, mais qu'est lié à ce mouvement religieux dont j'ai parlé, qui est à l'époque où on faisait l'éloge de la pauvreté du Christ, pauvreté des philosophes païens, et puis même le pape Innocent III dénonçait la cupidité des grands. Il disait, vous prenez de l'argent pour la croisade, mais vous avez les doigts crochus, vous gardez entre vos mains tous ces biens. Alors Innocent III, ça a été aussi un homme extraordinaire, qui a joué un rôle important, qui avait été un grand écrivain, qui avait écrit un ouvrage sur la misère de l'homme en latin, qui était la source de toute la littérature macabre du pourrissement du corps jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'est de là que part cette littérature.
Oui, et quand même, il essaie d'être un petit peu honnête, ce Clary, parce que il cite un grand baron qui lui était héroïque.
Hein, oui, ah ben,
quoi, c'est le bon juif.
Non, il cite des personnages héroïques, mais le grand baron dont il parle beaucoup, c'est son suzerain. C'est Pierre d'Amiens, de même qu'Hugues de Saint-Paul.
Ah oui, donc
parce qu'il y a les liens de vassalité qui jouent. Mais il y en a un qui a fait l'accord autour de sa personne, c'est Pierre de Bracheux, qui est un homme héroïque, une sorte de géant, que le roi Joannissa avait invité, parce qu'il avait entendu parler de ses exploits. Et quand ils ont vu arriver ce personnage, il regardait en haut tellement il était grand. Puis il lui demande, mais pourquoi vous êtes venu ici? Ben, il dit, je suis revenu conquérir l'héritage de mes ancêtres. Ouais. Parce que, justement, les Francs se considéraient comme les héritiers de Troie, ils revenaient conquérir là.
Ah, ils avaient la même mémoire.
Voilà. Et c'est un personnage épique par sa stature. Et puis lui, quand il demande un royaume, il ne prend pas un royaume qui est entre les mains des croisés. Il demande un royaume à conquérir sur les Turcs en Asie mineure. Là, c'est à peu près le double du personnage légendaire de Guillaume d'Orange dans la chanson de Chasse.
Bien, alors quant à l'autre, Villehardouin, il est davantage connu, mais on a l'impression, lors d'un très bon historien, peut-être pas complètement rigoureux, parce qu'il a quand même amitiés, etc.
Des faits, il a pas vu tout à fait. Par exemple, il est certain que Boniface de Montferrat avait des connivences avec l'empereur d'Allemagne, même avec le roi Philippe Auguste, etc. Donc ça, il en a pas parlé. Je pense qu'il le connaissait, parce qu'il y avait des rivalités entre les grands féodaux. Par exemple, les champenois comme Villehardouin n'aiment pas les gens du Blaisois, de Louis de Blois. Ils sont très critiques à son égard. C'est à cause de lui qu'il y a eu la défaite d'Andrinople. Donc il dit tout ça, il le suggère. Ouais.
Donc il est quand même un peu trop engagé pour être un historien absolument rigoureux.
Impartial, mais il dit beaucoup de choses. Vous savez, ce sont des textes qu'il faut scruter à la loupe, et alors on découvre entre les lignes des vérités, des semi-vérités qui sont indéniables. C'est pour ça que je crois qu'il faut leur accorder une part importante, comme vous l'avez fait.
Bien. Et alors, un mot simplement, après, vous dites, ces deux personnages, vous m'avez parlé d'un autre qui écrit en latin, je ne sais pas...
Oui, il y a un nommé Gunther de Péris, qui avait suivi un abbé Martin, et a écrit sa chronique en latin, qui est très intéressante, j'en ai traduit une page dans ce volume, mais il serait intéressant de le mettre. Si j'avais eu assez de place, j'aurais mis cette chronique en traduction.
Vraiment,
troisième volume. Et puis, il y a aussi des lettres des grands féodaux, qui ont écrit au pape leur aventure. Alors tout ça, en sorte qu'on a beaucoup de documents sur l'époque.
Vous dites que, au fond, Villehardouin crée peut-être une tradition illustre, puisque on compte dans cette tradition les plus grands Vauban et le général de Gaulle.
Mais ce sont des hommes d'action qui sont devenus hommes de plume. C'est ça qui est important. Alors que Villehardouin ne l'était pas au départ. C'était un maréchal de Champagne, conseiller de la comtesse, qui vivait dans les cercles chevaleresques et courtois. Alors que d'autres croisés, comme Conon de Béthune, ont été poètes avant d'être chef de la croisade.
Parce qu'ils sont très cultivés dans l'ensemble. Dans le gratin.
Ils étaient cultivés, ils écrivaient des poèmes. Baudouin de Flandre, Jean Renard lui avait dédié un de ses romans, L'Esclou. C'est des gens qui avaient une cour littéraire et philosophique autour d'eux, en Flandre, en Champagne, à Blois, etc.
Donc cette tradition, non pas des historiens qui sont en même temps hommes d'action, mais mettons des historiens tout simplement, Villehardouin en est un des premiers, et puis il va y en avoir quelques autres jusqu'à la fin de la,
oui.
du Moyen-Âge.
Hein. Alors après, dans la foulée, il y aura un autre historien de la croisade, c'est Joinville, qui est aussi l'historien de Saint-Louis.
Oui.
Alors là apparaît le personnage royal. Puis il y aura Froissart qui étendra aux guerres franco-anglaises l'ensemble de l'histoire. Et puis pour finir, Comines, autour de Louis XI, alors qu'il lui sera en même temps un grand penseur politique. Et il apportera en France ce qui était déjà...
Villehardouin aussi est un penseur politique.
Oui, c'est des... Et puis il est curieux de voir que Villehardouin et Comines ont une admiration pour Venise. Venise pour son système politique fait d'assemblée et d'un loge élu à vie. C'est-à-dire, on élisait quelqu'un à un certain âge, après il était à vie, donc il avait une certaine indépendance,
vous
mais on l'avait
testé. Après il a 94 ans,
oui, et il meurt à la croisade, et c'est lui qui détermine la victoire à un certain moment en se faisant débarquer le premier.
Ah oui, c'était étonnant. Bien, et évidemment, il y en a d'autres. Là, vous citez les grands, mais enfin, il y a beaucoup d'autres historiens déjà à cette époque-là.
Oui, c'est pour ça que, justement, j'ai pensé qu'il fallait faire connaître ces deux textes pour amener les gens à chercher autour d'autres textes.
Et vous avez l'impression que les gens en France aujourd'hui lisent beaucoup ces textes, qu'on les lit plus qu'avant
Il est certain que, si j'en juge l'éditeur, que, par exemple, une collection comme GF, pour le Moyen-Âge, est une collection qui a du succès. Vous voyez, là, je suis en train de préparer l'édition bilingue de l'ensemble des mémoires de Comines. Donc, c'est signe qu'il y a un public que les éditeurs demandent. Dire que ce soit un public très étendu, je n'en suis pas absolument certain, mais il y a quand même... Mais il fallait aider les gens en donnant des traductions à côté des textes.
Je vous remercie, Jean Dufournet. C'était donc Jean Dufournet qui nous parlait de ces deux historiens remarquables, Villehardouin et Jean, et attendez,
Robert de Clary.
Et Robert de Clary, oui, et Villehardouin. Et c'est ainsi que s'achève Un étrange pays. La prise de son est de Noélie Pellegrin. La réalisation de Daniel Finot. Vous pouvez réécouter cette émission pendant une semaine sur le site de franceculture.com. Vous y trouverez aussi les émissions à venir. La semaine prochaine, nous parlerons d'un écrivain qui était pour moi inconnu, mais qui est passionnant, écrivain et illustrateur, une dame anglaise récente, Les Fées et les Fleurs de Cicely Mary Barker.